Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu 102.2. Aujourd'hui, nous recevons Monique Bouchard d'Atacrone pour nous parler justement de la lutte, c'est un des cœurs d'action d'attaque, de la lutte contre la finance, la spéculation, paradis fiscaux, et donc la façon dont on redonnera peut-être un peu des chiffres pour expliquer ce que ça représente, et puis un peu la façon dont on lutte, ou dont les choses avancent ou n'avancent pas. On parlera notamment de la campagne d'attaque sur les requins, et également le lien avec la COP21 qui se passe aujourd'hui et les actions qui se passent en ce moment. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Monique.
Oui, on peut rappeler comme c'est un peu l'habitude que ATTAC créée en 98, donc a mené dès le départ une bataille par rapport à la finance. Donc cette bataille est au fondement de nos engagements depuis plus de 15 ans. À ses débuts, on demandait donc une taxation de des mouvements de capitaux, la taxe Tobin, hein, et puis on a élargi plus largement à la taxation des transactions financières, c'est-à-dire que ça c'est sur une assiette beaucoup plus large. Ce sont des propositions nécessaires pour désarmer la finance et pour mobiliser également de nouveaux financements. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais ATTAC est aussi quelque chose qui est une association qui est tournée vers l'action et qui veut donner des propositions et des alternatives.
Et peut-être qu'on pourrait aussi rappeler qu'il y avait la lutte contre la finance, mais bon, parce que aussi ça a un impact justement sur les citoyens. C'est aussi ça qui fait justement l'argent qui n'arrive pas dans les caisses de l'État, c'est de l'argent en moins pour l'éducation, pour la santé. Je pense qu'il y a également ça qui...
Oui, alors en ce qui concerne l'évasion fiscale, effectivement, ça a un impact sur énormément de points, puisque c'est de l'argent qui n'entre pas dans les finances des pays. Donc, ce sont des capitaux d'individus, ce sont des capitaux des multinationales qui partent dans d'autres pays ou qui, par le biais de filiales, s'en vont donc aussi dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, c'est-à-dire des lieux où l'imposition est très très faible. Et tout cet argent, évidemment, ça, c'est un manque à gagner pour les États et ensuite pour les populations qui subissent le contre-coup, puisque les dettes se creusent, puisqu'il manque de l'argent. Ce ne sont pas les dépenses qui font les dettes, ce sont bien... le manque d'approvisionnement, donc ce ne sont les impôts sur ces sociétés qui ne rentrent pas. On peut parler de Total, hein, qui distribue d'énormes dividendes et à ses actionnaires et qui ne paye aucun impôt en France. On peut parler des banques qui, via leurs filiales, n'ont aucun personnel parfois dans ces paradis fiscaux. On distribue donc des dividendes et sont nullement taxés. Donc, c'est des manques à gagner et la dette en France et ailleurs se creuse. Et ce sont des richesses des nations qui sont cachées dans ces paradis et qui partent, donc, et dont nous ne voyons pas le jour.
À combien on peut évaluer ces évasions fiscales annuellement
Alors, dans le monde, dans les paradis fiscaux, c'est 4800 milliards d'euros qui sont dans les paradis fiscaux.
Et en France ?
Et en ce qui concerne... alors, l'Europe, c'est 1000 milliards d'euros. En France, je dois avoir le chiffre, je vais peut-être vous le trouver. Je ne le connais pas exactement, mais...
Je crois que l'ordre de grandeur était de l'ordre de 50 milliards à peu près.
Le manque à gagner par rapport à l'évasion fiscale en France, c'est 66 milliards à peu près. 66. Enfin, on l'évalue entre 60 et 80 milliards, hein, en gros. Donc le chiffre que j'ai eu, effectivement, c'est... J'ai regardé... tout à l'heure, donc c'est de l'ordre de 66 milliards d'euros. Et il faut savoir que, donc ceci, 66 milliards d'euros sur l'année, hein, depuis le 1er janvier, C'est la somme depuis le 1er janvier, donc ça, on peut penser que ça sera même un peu plus haut. Hein. Et l'impôt collecté donc en France, prévision 2015, c'est 71 milliards d'euros.
L'impôt sur
donc
revenu.
Vous voyez que oui. Donc,
et si on compare ça à la dette, on est aussi sur les mêmes ordres de grandeur.
Alors, oui, c'est pareil pour la dette. Donc si on a vraiment des manques à gagner, on a aussi par rapport aux produits dérivés également. Donc les produits dérivés en circulation, ça représente 613 milliards d'euros. Alors on voit aussi, si on regarde aussi les rémunérations qui vont aux dirigeants, parce qu'on compare, on est en train de parler chiffres, donc il faut aussi, par exemple, la situation actuelle, c'est à peu près la rémunération de 8300 dirigeants et traders de BNP Paribas, par exemple, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE, c'est-à-dire les quatre grandes banques françaises, c'est 2259 milliards d'euros. Ça, c'est pour les 8300 dirigeants hein, de ces banques-là. Et si on compare aux rémunérations brutes de l'équivalent, c'est-à-dire 8300 salariés au SMIC, hein, depuis, toujours en prix à partir du 1er janvier, hein, les chiffres que je vous donne là, c'est 136 milliards d'euros. Donc vous voyez le rapport 2250, 2300 et 136 milliards d'euros, hein, c'est des milliards d'euros.
Alors quelles sont plus particulièrement les entreprises ou les institutions concernées? Quelles sont les plus importantes?
Alors au niveau de la France, donc on a les multinationales, donc les grandes multinationales, donc certaines sont en France. Enfin, moi, j'aime mieux parler au niveau de l'Europe, hein, parce que bon, d'abord internationalement, parce qu'évidemment, disons qu'on va effectivement essayer de chercher des solutions à notre niveau. Hein, on verra tout à l'heure qu'il y a eu quelques petites avancées au niveau de la France, justement, mais que globalement, on les recherche plus au niveau de l'Union européenne et évidemment au niveau international si cela est possible, mais au moins au niveau de l'Union européenne. Donc ce sont toutes ces grandes multinationales d'une part donc qui vont dans ces paradis fiscaux et puis les quatre grandes banques systémiques que l'on a en France, hein, donc celles qu'on a citées, Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d'Épargne, BNP Paribas, etc. Donc,
de toute façon, les banques doivent avoir un rôle particulier parce que j'imagine que c'est même elles qui conseillent les multinationales pour bien mettre leur argent.
Alors effectivement, donc les banques, elles ont un rôle particulier parce que d'une part, elles ont des intérêts à avoir des filiales. Donc, elles sont les premières à avoir les filiales hein, dans ces paradis fiscaux. Et puis, ensuite, elles sont conseilleuses pour les multinationales et également pour des épargnants, des gens qui ont des clients, on va dire, qui ont de l'argent. On ne dira pas des épargnants, mais plutôt des clients hein, qui ont de l'argent. Donc, elles estiment que c'est de leur devoir. D'ailleurs, c'est ce que répond BNP Paribas, puisque ATTAC les a rencontrés il n'y a pas très longtemps avec d'autres organisations à propos du fauchage de chaises dont on reparlera peut-être. Et donc, ces banques disent que finalement, elles ne font que leur boulot, puisqu'elles ont des clients et qu'il est normal qu'elles privilégient ces clients et qu'elles leur fassent gagner de l'argent. Donc,
Il n'y a pas d'illégalité à aller justement placer cet argent dans des paradis fiscaux?
Alors les paradis fiscaux, bah, c'est pas légal, bien sûr. Alors l'évasion fiscale, c'est pas légal non plus. Mais il y a des actuellement dans les lois, il y a un certain nombre d'articles qui permettent de profiter au maximum de solutions. Donc elles s'engouffrent dans ce créneau-là parce qu'effectivement il y a des choses illégales. Et il y a des choses parfaitement légales. Et donc, BNP Paribas, par exemple, est une des banques qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Hein, 170, je crois, donc quelque chose comme ça. Donc, ces paradis fiscaux qui sont proches ou plus éloignés de nous, hein, que ce soit le Luxembourg, la Suisse. Alors après, ça peut être aussi des paradis, parce que ce sont des pays qui font du dumping fiscal. Hein, par exemple, l'Irlande, donc, où les taux d'imposition par rapport aux entreprises sont très bas. Et donc, ces entreprises qui, déjà en France, ont des avantages et bénéficient de taux d'imposition qui sont très faibles, parce que ça a été revu, c'est dans les 5 dernières années, c'est tombé à 33%. Mais en fait, on s'aperçoit que les grandes multinationales, globalement, celles qui sont au CAC 40, elles ne payent que 8%. Donc, alors que les petites moyennes entreprises payent 25%. Donc, et en plus, donc quand les fonds partent, évidemment, dans d'autres pays qui ont des taux d'imposition beaucoup plus bas, bah évidemment, pour eux, c'est tout bénéfice. Hein. Et pour nous, et bah c'est pour les gens, pour les personnes, c'est tout l'argent qui ne va pas dans les caisses des États.
Alors, est-ce qu'il y a eu des tentatives des pouvoirs publics, des gouvernements, pour mettre en place des dispositions pour essayer justement de contrer cette évasion fiscale?
Alors oui, il y a eu quelques tentatives, mais elles sont, disons, assez molles, on va dire. Hein. En fait, il y a eu quand même, au niveau de la France, une tentative par rapport, c'est par rapport aux banques. Donc c'est ce qu'on va appeler, parce que les associations, par exemple, depuis très longtemps, elles réclament la transparence sur les opérations, sur les finances, hein, et donc elles demandent que ces firmes donnent l'intégralité donc de leurs filiales, avec une transparence sur les pays d'implantation, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bénéfice, les subventions publiques reçues, le montant des impôts acquittés dans chaque pays. Donc les associations, ça fait très longtemps qu'elles demandent ceci. Et pour le moment, bon, il y a eu quelques tentatives quand même. Il y en a eu une au G20, mais en fait qui n'est pas suffisante, et en plus qui n'est pas, alors c'est ce qu'on appellera le reporting pays par pays, mais qui n'est pas du reporting pays par pays public. Donc en fait, tant que c'est pas mis en transparence devant qui de droit peut, au niveau des impôts, peut aller regarder de près un petit peu les données, ça n'apporte pas grand chose. Hein. Alors par contre, il y a eu une opération en France de reporting pays pour lutter contre l'évasion fiscale, d'abord contre les banques. Donc c'est en 2013 ça. C'est arrivé en 2013 et ce projet qui a été une directive dans le cadre de la directive sur les droits des actionnaires, donc ça n'a pas poussé ces banques à une déroute, hein, elles n'ont pas été à la faillite. Et cependant, on a eu un premier état, donc, depuis 2015, c'est la première année, de choses beaucoup plus transparentes sur les banques. Alors, nous, on a évidemment applaudi des deux mains cette mesure, mais on pensait que le faire sur les banques, ça n'était pas suffisant et qu'il fallait aussi le faire sur les multinationales. Il se trouve que, on est le quoi là? On est le 10. Donc, ça fait un moment que un certain nombre de députés en France essayent de mettre l'accent là-dessus. Et le 4 décembre, les députés ont voté, donc l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement d'ailleurs, puisque par la voix du secrétaire d'État au budget, Christian Ecter, le gouvernement avait demandé aux députés de ne pas voter, de voter contre l'amendement, et en disant que l'argumentaire avancé, c'est toujours la même chose, attention à la compétitivité de nos firmes nationales.
C'est un peu le souci, jamais un pays veut y aller tout seul, quoi.
Alors,
de perdre sa compétitivité, justement.
Oui, alors un pays va pas y aller tout seul, mais enfin, sur les banques, la France y est allée. Et on voit qu'elle a fait bouger les lignes également. Il y a une discussion au niveau européen, voilà. dans le cadre de la directive des droits européens. Donc on peut dire que, bon, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose d'y aller tout seul. Enfin, on peut dire, évidemment, on ne va pas changer la donne tout de suite, tout seul. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui commence. C'est un premier pas. Il faut. Alors, là, on est quand même satisfait de voir que les députés, mais ils n'étaient pas très nombreux, mais enfin, ils l'ont voté quand même. Hein. Et c'était un amendement déposé par des députés socialistes. Et donc, les firmes vont devoir rendre public chaque année l'intégralité de leur filiale avec une transparence inédite, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, il faut que ça passe maintenant au Sénat. Enfin, donc, c'est passé hier au Sénat.
C'est un premier pas.
C'est le 9. Enfin, c'est passé. Ça a été présenté au Sénat hier. Et j'ai été chercher les résultats. Je ne les ai pas trouvés. Donc voilà, alors ce que l'on sait, c'est voilà, c'est un premier pas, et d'autant que le gouvernement donc Hollande n'était pas favorable, et que donc ben on voit que malgré tout, il y a des groupes de députés qui ont vraiment eu envie de se pencher sur ces questions et d'essayer d'entraver donc ces multinationales dans le fait de l'illégalité de leurs pratiques. Enfin, l'illégalité, pas tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, mais quand même. D'autant qu'en plus, il y a des fonds qui ne sont pas toujours très nets, hein, qui vont dans ces paradis fiscaux.
Il y a des évolutions, j'ai cru entendre également, par rapport à la possibilité de cette taxe sur les transactions aussi.
Au niveau européen, il y avait eu des propositions de fait par un commissaire européen.
La taxation des transactions financières, hein, donc sur les mouvements de capitaux et plus largement donc sur une assiette bien plus large, y compris sur les produits dérivés, puisque c'était aussi ce qui était noté, parce que c'est toujours pareil, on a fait un premier point, mais on a vu que c'était pas suffisant, donc il faut aller plus loin. Il y a eu vraiment des allers et retours, je dirais. Parce qu'il y a eu un moment où, alors ça devait être, on est en 2015, c'était en 2014, la Commission européenne et l'Allemagne étaient favorables à la mise en place de cette taxe. Et on a vu à ce moment-là que c'est la France qui a fait échouer et qui n'est pas allée dans ce sens-là. Hollande a continué à traîner les pieds jusqu'à la fin de l'année 2014. Et finalement, en janvier, il a fait annoncer par Michel Sapin donc qu'on allait essayer de participer à la mise en place de cette taxe, puisque il y avait 11 États qui étaient OK pour se mettre ensemble et essayer de faire quelque chose. Donc c'est la coopération renforcée à 11 États. Hein, et donc, on a vu, par exemple, là, ces derniers temps, donc c'est tout à fait récent, hein, c'est l'annonce du Conseil d'Ecofin, c'est-à-dire les ministres des Finances, hein, de l'Union européenne, hein, le mardi 8 décembre, un accord politique sur le projet de coopération renforcée en matière de taxes sur les transactions financières, mais qui est imprécis et où des propositions concrètes ne sont pas tout à fait approprié. C'est un accord de principe, encore une fois, hein, qui repousse en fait au minimum à juin 2016 toute décision. Et pour la collecte des fonds, ça pourrait être à peu près 2018. Donc on peut dire que c'est un engagement présidentiel qui date donc de janvier 2015 qui ne verra pas le jour avant la fin du mandat présidentiel, hein, une fois de plus. Donc, au niveau de la COP21 et de tout ce qu'il y a eu autour et de ce qui a été dit, c'est un point, là encore, qui a été souligné par Attac et par d'autres, hein, pour rappeler notre position, parce qu'évidemment, nous souhaitons cette taxation sur les transactions financières, mais pas n'importe comment et avec un taux suffisant également pour que ça serve effectivement à quelque chose.
Et on continue après une petite pause musicale.
Des années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Des puces électroniques surveillaient sans mal les murailles de lingots tressées dans la cale. Poussée par le vent des marchés, la coque passait entre des récifs de chiffres carrés. Jamais l'opulence n'expirait, une signature au dos de la carte suffisait à pousser le navire loin des rades. Ils avaient le code secret et la parade, là où ils mouillaient, dans des golfes sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage hilar faisait gicler la monnaie. Les années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Là où il mouillait, dans les golfes sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage hilar faisait gicler la monnaie. De bons amis, lâcher des pourliches aux institutions financières, s'entendre avec une poignée de corsaires. Les navires s'offraient de royales escales, où les hôtesses psalmodiaient le nom des capitales. Dans les couloirs sans fin des duty free, leurs yeux reflétaient la couleur mate du whisky. Et si le liquide manquait parfois, au passage des détroits, une bande magnétique les attirait vers des brèches ultramarines crachant liasses de billets. À la coque s'accrochaient des requins galeux sans argent. Ils les repoussaient à coups de rame dans les flancs, criant « Allez où ?» Cinglait vers de plus riches océans où les vents soufflent à crédits illimités. Hélas! Des rafales déchiquetèrent les voiles, une tempête se levait sur les places occidentales. L'équipage à découvert sous l'ouragan voyait refluer toutes les vagues de paiement. La carte bleue se fissurait à l'horizon, dans les cales les puces piquaient comme des scorpions. Les condors désargentés hurlaient dans le ciel, une peur bleue leur serrait la rondelle. Les membres de l'équipage écopaient le liquide, le gage, la commode.
Nous écoutions Java, chanson carte bleue tout simplement parce qu'on parle d'argent aujourd'hui. Donc avec Monique, donc une émission sur la finance, spéculation, évasion fiscale et notamment sur les moyens de lutter. On a un peu fait un panorama et là maintenant on va aussi passer à des actions concrètes. Notamment depuis 2 ans, ATTAC mène une campagne citoyenne qui pointe certaines entreprises ou certaines banques, et notamment la BNP, justement, sur ses actions dans un paradis fiscal. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors, cette campagne anti-requin. Alors je mets requin entre guillemets, hein, parce que c'est un mot qu'on nous a un petit peu reproché, parce qu'effectivement les requins ils vivent leur vie, hein, mais bon, nous on a dit quand même on va les appeler les requins. Bon, alors on a mené ça l'année dernière, hein, contre 3 requins. Donc j'avais fait le point ici de cette campagne, parce qu'on avait eu sur les 3, on en a fait tomber 2, on dira, Société Générale et puis Unilever. Et on avait BNP Paribas, parce que c'est une banque qui triche, c'est une banque, comme on l'a dit, qui est dans les paradis fiscaux, qui organise l'évasion fiscale. Et donc, cette campagne requin, le but, c'est de cibler des multinationales, des banques, et d'espérer avoir des résultats concrets, donc des objectifs atteignables.
Oui, c'est des objectifs très précis, c'est pas juste dire vous êtes des vilains, mais arrêtez de faire ça.
Voilà, c'est quelque chose de très précis, qu'on se fixe sur une année reconductible, mais avec un projet, disons, un objectif sur l'année, faire tomber ces requins-là. Donc cette année, les requins, on avait BNP Paribas que l'on a remis pour ses activités effectivement d'évasion fiscale. On avait également Total et on a les usines de les porcheries en Vendée, avec Sophie Protéol, qui s'appelle maintenant Avril, et qui devait monter, donc, qui a monté, 2 maternités de petits porcs, à 900 truies à Poiroux, vers les Sables d'Olonne, et cette maternité qui prévoit la naissance de 23 000 porcelets par an. Donc, au niveau environnemental, au niveau des lieux, au niveau sanitaire, au niveau des emplois. Tout ça, il n'y a que 3 personnes employées, donc pour tout ça. Bon, enfin, on a ciblé ça, mais pour revenir à ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, que nous avons BNP Paribas qui a, on l'a dit, 170 filiales déclarées dans les paradis fiscaux, 29 filiales au Luxembourg, 10 en Irlande, 7 en Suisse, 7 dans les îles Caïmans. Et ce sont des véritables trous noirs pour l'économie mondiale. Et cet argent, donc, c'est celui aussi qui côtoie celui des mafias et du crime organisé. BNP Paribas déclare réaliser 26 millions d'euros de chiffre d'affaires aux îles Caïmans, juste en parlant des îles Caïmans, et elle n'a pas un seul salarié sur place.
Donc on peut avoir 7 filiales et pas de salariés.
Oui, si ça ne s'appelle pas du offshore, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Donc elle nous dit qu'elle organise l'évasion fiscale pour ses clients. Et qu'elle dit que c'est normal de créer une société à géométrie variable et qu'on en fasse profiter les clients et les multinationales. Et on se demande donc combien de temps va durer cette mascarade, parce que personne n'est dupe du fait que de toute façon, eh ben, cet argent il part ailleurs. Hein. En plus de ça, cette banque... elle n'est pas la seule, hein, parce que les 4 grandes banques françaises, les principales, BNP, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Postale, Caisse d'Épargne, pardon, avaient été écrites... Caisse d'Épargne, Caisse d'Épargne.
Mais c'est pas la Banque Postale, non, c'est...
Banque
Populaire.
Caisse d'Épargne.
Ah oui, Banque Populaire,
Caisse d'Épargne. Ah, c'est Banque Populaire, j'ai dit ?
Banque Postale.
Oh, pardon, excusez-moi, oui, Banque Populaire, oui, je croyais que c'était sur le deuxième terme. Oui, d'accord, alors là, effectivement, la BPCE, donc, qui avait été largement critiquée en 2013 pour avoir lancé des fonds indiciels qui étaient indexés sur les matières premières agricoles. Et à partir de 2008, il y avait eu un véritable tsunami financier qui a déséquilibré les prix, qui a contribué à leur instabilité, qui a fragilisé les revenus des agriculteurs et surtout l'accès de ces biens de première nécessité aux populations. Donc on voit que là aussi, BNP Paribas fait partie du lot Et ces banques-là s'étaient engagées donc à mettre fin à cette activité. Et on s'est aperçu cette année qu'en fait, il y en a une seule qui a respecté ses engagements, c'est la Société Générale.
Voilà, c'est pour ça qu'on disait qu'on avait réussi avec la Société Générale tout à l'heure.
Non, parce que la Société Générale, on avait réussi, mais pas sur ce plan, quoique ça fait partie aussi des avancées. Mais nous, on l'avait ciblé sur un objectif précis qui était le financement de Alpha Coal, c'est-à-dire du charbon en Australie. Et c'est là qu'ils ont renoncé au projet. Donc, c'était sur ce plan-là qu'elle avait été un de nos requins. Mais là, c'est également, donc, elle s'est également retirée, donc, alors que BNP Paribas, qui en possède, a bien fermé deux fonds, mais elle en possède encore une dizaine, ce qui pèse à peu près 1,3 milliard d'euros, donc, et puis qui entraîne des catastrophes, parce que quand même... spéculer sur la fin, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est en totale contradiction parce que avec ce qu'avait dit Hollande et son gouvernement, qui avait pris des engagements, il sera mis fin aux produits financiers toxiques, je cite, qui enrichissent les spéculateurs et menacent l'économie. On voit que pour le moment, le gouvernement Hollande, il n'a pas pris quand même de grosses mesures pour aller dans ce sens-là. Hein. Donc, deuxième exigence citoyenne concrète. Par rapport à BNP Paribas aussi, on lui demandait de retirer ses billes et de ne pas financer les projets charbonniers du bassin de Galilée en Australie. Alors, même chose que Société Générale, c'est-à-dire que c'est sur la barrière de corail, entre autres. Donc, ce sont des projets qui sont des véritables bombes climatiques. 705 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises chaque année. Et bien entendu, des dégâts également sur la pêche, sur l'eau. Et c'est une catastrophe pour les populations locales, pour la biodiversité, pour le milieu marin, etc. Donc,
Et là, on voit aussi comment la lutte contre la finance rejoint aussi la lutte environnementale. On parlait COP21. Et qu'il y a de plus en plus de mouvements qui luttent justement concrètement pour pousser des entreprises ou des banques à désinvestir justement de toutes ces projets nuisibles,
toxiques
tant pour des raisons financières que pour des raisons environnementales et climatiques.
Voilà, donc effectivement cette année, on avait en plus l'arrivée en France de cette COP21 qui permettait de mettre encore plus l'accent sur les contradictions de ces multinationales, alors que ce soit, bon, on a dit que Total également était dans nos requins et que Total, BNP Paribas et Total d'ailleurs sont dans les sponsors et sont les premiers
de la
COP21. Hein. Donc ils ont un double langage.
Très bien, très bien. Alors, au niveau de Total, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a eu comme préoccupation ?
Alors, par rapport à Total, là où on l'avait ciblé dans cette campagne requin, c'était pour qu'il ne participe pas au financement d'exploitation de gaz de schiste en Algérie. Donc, il est déjà largement implanté, c'est le second opérateur gazier en Argentine, qui est la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste dans le monde. Il est engagé en Patagonie, il a des tas de concessions, il exploite les sables bitumeux au Canada... Et maintenant, donc, il avait jeté son dévolu sur l'Algérie parce que le gouvernement algérien, donc, a des projets avec une compagnie nationale qui s'appelle Sonatrach, hein, où l'État algérien a 51% des parts et Total avait acquis la participation maximale qu'il pouvait avoir, 49%. Donc, très investi dans cette exploitation des gaz de schiste. Qui présente, nous on le sait, puisqu'en France il y a des campagnes Stop Gaz de Schiste et qu'on lutte là contre, hein. Donc qui présente des risques sanitaires avérés, qui en plus dans ces zones de Sahara est une véritable aberration puisque il y a des énormes besoins en eau pour faire cette extraction de gaz de schiste. On pompera dans les nappes fossiles, on ajoutera des adjuvants chimiques hein, pour la fracturation et ensuite ces nappes deviendront impropres à la consommation. Donc on a vu ce que ça donnait déjà hein, au Canada effectivement. Et ça, c'est quand même, au niveau environnemental, quelque chose qu'on doit dénoncer. Hein, parce que ce Total qui non seulement ne paye pas d'impôts, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, l'évasion fiscale, ça c'est sa tranche favorite, hein, mais on souhaite qu'il se retire de ce projet qui
alors,
aura des
l'instant.
Conséquences désastreuses sur les écosystèmes et sur les populations locales. D'ailleurs, les populations locales sont tout de suite montées au créneau, à la fois au niveau du forage, mais également jusqu'à Tunis. Hein. Donc, il y a eu des mouvements très forts. Donc, nous, dans ces campagnes requins aussi, on veut s'appuyer sur des locaux. Alors, que ce soit en Vendée, pour les porcelets, il y a des gens qui sont hostiles à ces projets, hein, pour des tas de raisons. En plus, il y a des infrastructures que ces multinationales exploitent alors qu'elles ne payent aucun impôt chez nous. Par exemple, elles défoncent les routes avec leurs camions qui circulent. Enfin, c'est un petit détail, mais ça fait partie de l'ensemble. Donc, il y a des gens sur le terrain qui luttent. Donc, on essaye d'appuyer ces résistances. Et donc, c'est aussi ce qu'on a fait en essayant d'épauler ces populations algériennes, et en particulier lors du forum social mondial qui a eu lieu en Tunisie cette année, donc où les Algériens étaient bien représentés.
Alors, il y a eu des effets, là, sur Total, ou pas,
alors,
pas encore ?
Total nous dit qu'il s'est retiré. Il a envoyé un papier disant qu'il ne fait plus partie du projet, mais on n'est pas sûr que ce soit bien vrai. Donc, pour le moment, non, on ne peut pas dire que...
Il faut garder la pression.
Voilà, il faut garder la pression. Et c'est difficile. C'est un peu difficile pour nos actions par rapport à Total, parce que, à part aller au siège, on a vu que c'était compliqué. Parce que Total, eh ben, pour les citoyens, parce que le kit anti-requin, il a des autocollants que peuvent utiliser tous citoyens. Donc, on a fait des actions regroupées, nous. Mais tous les jours, les citoyens, ils peuvent aller coller des autocollants. Alors, coller des autocollants pour dénoncer BNP, tricheur fiscal, pour dire non aux usines de 23 000 porcelets, boycotter. Bon, aller boycotter dans les magasins les produits d'avril, c'est-à-dire, par exemple, je le redis, l'huile d'olive Puget.
L'huile le sieur.
L'huile le sieur. Bon, des produits, les œufs matines. Bon, ça, on peut le faire au quotidien en tant que consommateur. Aller coller des autocollants vers les banques, on peut le faire. Mais Total, stop au gaz de schiste en Algérie. On est embêté parce que quand on va vouloir le coller, c'est plutôt sur... les postes, les endroits où on peut aller chercher de l'essence. Et en fait, c'est embêtant parce que ce n'est pas franchement Total qui se sent visé. Ce sont ceux qui ont ces magasins, quoi. Donc, on a du mal. On a eu du mal, je pense, vraiment à agir par rapport à Total. Par contre, on a beaucoup plus agi et surtout d'une manière symbolique par rapport à la BNP tricheur fiscal, et ceci avec les faucheurs de chaises, qui est une action de désobéissance civile.
Et on vous en dira plus juste après la pause.
Mon amour, s'il te plaît, pardon pour cette nuit. C'est pas pour t'embêter, c'est juste une insomnie. Je sais bien qu'il est tard et que tu vas faire la gueule. Mais on est des milliards à se sentir tout seul. À force de ramer, c'est presque une habitude. On s'est juste enfermé dans la même solitude. À force d'être ailleurs, on s'est encore planté. Toi t'as fermé ton cœur et j'ai paumé la clé. Depuis combien de jours on teste, on se déteste. Et puis on fait la l'amour, du moins ce qu'il en reste. Est-ce que tu t'en souviens quand on s'est rencontrés? C'est vrai qu'on n'avait rien, mais on le partageait. Ce soir où le cafard se nourrit de cafards, il est toujours trop tard, alors dans mon brouillard, alors à bout de nerfs, c'est un appel au secours, une bouteille à la mer, une bouteille à l'amour. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde. On survit comme des fous, tout le monde est dans le rouge. Y'a plus personne partout, mais personne ne bouge. La planète est crevée, le soleil est malade. On va tous y passer, mais faut pas faire de vagues. Ils ont pourri la pluie, mais dans tous les pays, c'est la course à l'envie d'être riche à tout prix. Partout autour de moi, le pognon fait la loi. Un jour on te dira, salut, combien tu vas? Regarde les sécugus avec leurs portefeuilles, leurs actions, leurs bonus, leur cul dans un fauteuil. Ils nous prennent pour des cons, d'ailleurs ils n'ont pas tort. On est tous des pigeons, c'est vrai qu'ils sont très forts. Ils s'en sortent toujours, on n'a pas les mêmes cartes. On galère tous les jours, mais on passe à la trappe. On se serre la ceinture, et pendant qu'on s'accroche, il y a toujours des ordures qui s'en mettent plein les poches. Aussi vrai que la terre est ronde, on va le changer, ce putain de monde. Aussi vrai que la terre est ronde, on va le changer, ce putain de monde. Tomber si bas que ça donne le vertige. Et toi comment ça va depuis qu'on nous lessive? On s'est laissé piéger, mais faut pas qu'on se quitte. Allez, faut se réveiller, la vie, ça va trop vite. À cause de ces requins, ces salauds, ces rapaces, un jour le lit devient un cercueil à deux places. Alors en attendant, faut qu'on se parle d'amour. Et tant qu'on a le temps, fais-le moi tous les jours. Avec un peu de chance, on va faire comme les gosses. On dit qu'on recommence et qu'on en a la force. On dit que c'est un jeu, mais faut se donner la main. On dit qu'on est heureux et que tout ira bien. Mon amour, s'il te plaît, réveille-toi. Ce soir, il faut s'aimer, la vie, c'est fait pour ça. Dis-moi n'importe quoi, faudra plus jamais se taire. Et surtout, promets-moi qu'on va pas se laisser faire. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde. Aussi vrai que la terre est ronde, on va changer ce putain de monde.
C'était Agnès Bill, Insomnie, et justement, on ne dort pas.
Donc on a vu qu'il faut peser, il faut toujours que la pression soit là, et dans les pressions et dans les actions qui sont menées, les faucheurs de chaises, donc, dont Attac s'est fait en quelque sorte une spécialité. Alors ça vient d'où?
Oui, alors ça vient pas d'Attac à l'origine, c'est Bizy. Hein, c'est à Bayonne, donc les premiers faucheurs de chaises, ça s'est fait à Bizy, l'organisation Bizy Bayonne. Hein. Donc c'est eux d'ailleurs qui ont après en lancé les alternatibas. Hein. Et donc ça a été quelque chose de très symbolique, et c'est un peu de mettre en parallèle voler une chaise et voler les citoyens, les peuples, les États et les privés des capitaux dont on sait les montants. Ça on a pensé que ça allait un petit peu interroger, quoi. Donc
alors on va les voler où, ces chaises?
C'est un peu symbolique, mais ça a bien marché parce que ça a frappé un peu les esprits. Alors, ces chaises, on les vole pas, on va dire. On les vole pas, on les réquisitionne.
Il y a une rançon là.
Voilà, avec la rançon. Et dans le but de les échanger, effectivement, contre quelque chose qu'on a demandé et qui est cette fermeture des 17 paradis fiscaux dans les îles Caïmans de la BNP Paribas. Donc, c'est un premier pas, là aussi. Hein, c'est petit par rapport au reste. Mais s'il y avait déjà ça, ben voilà, ça marquerait qu'il y a quand même une prise de conscience et un désir.
C'est un premier pas.
C'est un premier pas. Hein, donc, ces chaises, donc, elles ont été réquisitionnées.
Et ça s'est fait un peu partout, toutes, dans des agences
Voilà, alors ça s'est fait principalement dans les agences de la BNP Paribas, mais aussi HSBC, mais principalement BNP Paribas, puisque c'était le lien qu'il y avait entre cette campagne requin d'attaque, le mouvement Alternatiba donc chez Bizi, et puis les d'autres organisations, les Amis de la Terre, etc., qui se sont mis aussi. Et donc... je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais passer à autre chose.
Alors, il faut en réquisitionner combien?
Alors, pour marquer le coup, on en voulait 196.
Alors, pourquoi 196?
Donc, alors 196, ça correspond aux 195 États, mais le 1 de plus, ben, ce sont nous, les citoyens.
Et 195 hein? États, c'est ceux qui vont participer à la COP?
C'est ceux qui participent à la COP.
D'accord.
21. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est les États qui participent à la COP 21. Et nous aussi, on a le droit de se faire entendre. Donc, 196 chaises. En fait, 240 chaises ont été réquisitionnées donc, ces derniers mois dans les agences bancaires.
Et ça s'est passé sans...
Alors ça s'est
problème.
Pas toujours passé facilement, hein. Alors ça a été assez variable. Il y a des citoyens qui ont été emmenés au poste. Il y en a une qui a été en garde à vue. Il y a quelqu'un, la collègue présidente d'Attaque Chambéry a été convoquée un mois après au commissariat. Il y a eu une interpellation. D'élus, c'était des élus verts qui sont venus faire un fauchage de chaises en novembre, voilà, sur HSBC, et qui, eux, ont été
emmenés
au poste, et on a repris leurs chaises, donc voilà, et nous, il se trouve qu'eux, ils ont dû faire leur action le lundi, et nous, on en a fait une à Tacron, qu'on avait prévue le jeudi. Donc, nous sommes allés dans une agence BNP à Jean Massé et nous avons réquisitionné 3 chaises. Donc, il y avait les médias parce que ce qu'on a, évidemment, ce qu'on espère, c'est que ceci soit largement relayé. Et on s'est aperçu, parce qu'on était à la Convention nationale des comités locaux, là, qu'on fait 3 fois par an à Attaque. Et ce qui est remonté, c'est qu'on a vu que les médias commençaient à se réintéresser à Attaque via cette campagne de fauchage de chaises. Donc, rien que pour ça, on est content. Et puis, bon, lorsque... On a fait le village des alternatibas, des alternatives, donc, puisque Attaque est dans le collectif Alternatiba. Enfin, en tant que citoyen d'abord, mais comme soutien, parce que après, ça dépend des constructions, hein, qu'elles soient locales ou nationales, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, donc, on a bien travaillé dans ce cadre-là. Et donc, il y a eu le village des alternatives qui était sur les quais du Rhône.
En octobre.
Et en octobre, qui a été une belle réussite. Et donc, on a eu pas mal de gens qui nous ont parlé de cette campagne. Donc, ça a un peu impacté les esprits. Et effectivement, ils ont dit, effectivement, l'évasion fiscale, il y en a assez. C'est bien de mettre ça dans des actions. Donc voilà.
Elles sont où ces chaises maintenant?
Alors ces chaises qui étaient donc un petit peu partout, qui pour certaines ont été directement présentées par des personnalités, hein, Suzanne Georges, Patrick Vivray, Edgar Morin, je sais plus qui encore, mais enfin bon, tout un tas de personnalités. Et nous, on avait aussi l'intention de faire asseoir Philippe Mérieux sur une chaise chez nous, qui avait d'ailleurs accepté. Mais on a dû faire remonter les chaises plus vite que prévu, parce que ces chaises devaient remonter pour le 12 décembre 2015, pour le lendemain de la fin de la COP. Mais compte tenu des événements du 13 novembre, évidemment, il y a eu des changements et donc il y a eu des interdictions Et du coup, ces chaises, elles sont montées à Montreuil. Parce que dans le cadre de cette COP 21, où il y a tout ce qui se passe à la COP 21 dont on parle chaque jour, eh bien, il y a aussi parallèlement un certain nombre de choses qui se sont faites à Montreuil.
Il y a combien de personnes à Montreuil ?
Alors, à Montreuil, il y a eu, je crois, c'est 300 000, je crois, personnes qui ont été à Montreuil. Donc, il y avait un village alternatif aussi là-bas.
Et notamment organisé par la Coalition Climat et par Alternativa.
Alors, la Coalition Climat 21 et puis également Alternativa et puis bien d'autres encore. Et donc, ces chaises ont permis d'asseoir des personnes du monde entier qui sont venues... qui sont intervenus, hein. Il y avait Vandana Shiva, par exemple, qui se sont assises sur ces chaises. Donc, ces chaises, elles sont donc montées à Montreuil, où il y a eu énormément d'interventions, de discussions, de débats.
C'est un espèce de forum social climatique, si on veut.
En quelque sorte, oui. Donc, voilà. Donc, ça a eu lieu donc, le 5 et 6. Et puis maintenant, il y a encore des débats à la salle 104 à Paris. Hein, ça va durer également sur 2-3 jours ici. Donc il y a des tas de choses qui se font. Et puis normalement pour le 12, on avait prévu une grosse action, une marche à l'origine mondiale pour le climat et la paix. Et donc pour le moment, il y a des choses qui se mettent en place. Alors on ne sait pas très exactement tout, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura quand même un rassemblement avec des lignes rouges. Des chaînes humaines qui seront symboliques de lignes rouges qu'il ne faudra pas franchir. Et ceci pour dire, vous terminez votre COP 21, il y a un certain nombre de choses que vous avez avancées, mais le compte pour nous n'y est pas, parce qu'apparemment on a regardé de plus près et le compte n'y est pas, effectivement. Et donc, nous, on a encore des choses à dire. Et donc, ils n'auront pas le dernier mot et on fera quelque chose le 12.
Donc, c'est samedi et c'est où ?
Alors ça, je ne peux pas vous dire parce qu'il y aura 3 actions, je pense. Sur la journée, il y aura 3 actions.
C'est en région
parisienne.
Je pense
que la plus grosse, oui, sera à Paris vers 14h. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait ? Parce que l'accord qui doit être contraignant... ne l'est pas vraiment, parce que ce n'est pas un accord construit sur le principe de responsabilité. Il y a toujours quelque chose de contractualisant où on échange les choses. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est qu'on reste sous les 2 degrés et que les 2,7 degrés... Maintenant, on nous dit qu'on n'ira pas au-delà de 2 degrés, mais enfin, on voit bien que ce qui a été proposé, ça nous mènera de toute façon à 2,7 degrés. Et 2,7 degrés, c'est pas acceptable. Hein, parce que déjà, quand on voit le nombre, il y a des problèmes avec les réfugiés actuellement à cause des guerres, mais également à cause des changements climatiques, et ça ne fera que s'accentuer.
Mais on sait que 2 degrés, déjà, ce sera trop. Et...
À 2 degrés, c'est maximum qu'il faut. Hein, on ne peut pas aller au-delà. Hein. Alors, il y a aussi, pour boucler la boucle, il y a le fond vert, et le fond vert qui n'est pas alimenté, et ça, c'est vraiment... C'est vraiment grave. Ils ne sont pas arrivés à un consensus encore pour alimenter ce fonds vert, alors que déjà, normalement, la plupart des fonds qui arrivent, ils étaient déjà prévus, et que ce fonds vert, c'est 100 milliards d'euros. Il y a 68 milliards mis par l'OCDE. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait 1000 milliards d'euros rien que dans les paradis fiscaux en Europe.
En tout cas, ça nous laisse du travail pour 2016. Et on ne sera pas là, on fait relâche le 24 décembre et on se retrouvera donc le 14 janvier.